Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris. On continue de parler des régionales à quelques jours du premier tour. Notre invitée aujourd'hui, Valérie Saxe, tête de liste de Nous Citoyens en Ile-de-France. Petite fille de militaire, vous êtes née en 1961. Après des études de droit, vous passez une grande partie de votre vie professionnelle en entreprise. Une colonne vertébrale de votre engagement politique, dites-vous. En 2005, vous créez deux think tanks. Un sur l'Europe et l'autre sur l'attractivité du Grand Paris. En 2008, vous présentez une liste indépendante de centre droit aux élections municipales dans le 16e arrondissement de Paris, puis vous rejoignez l'UDF. Vous êtes ensuite élu au Conseil de Paris, où vous êtes vice-président de la commission développement économique pour Paris. En 2013, vous êtes écarté de l'UDI, vous présentez une nouvelle liste indépendante avec des membres de la société civile face au maire du 16e, Claude Guesguen. Vous finissez par réunir 5,3% des voix. Cette année, c'est le poste de président de région que vous briguez en étant tête de liste de Nous Citoyens. Bonsoir Valérie Saxe.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Merci à vous. Alors, première question, en quoi les attentats de Paris que nous avons subis il y a quelques semaines maintenant ont-ils changé votre campagne ?
Ça a forcément changé immédiatement la campagne parce que tout ce qui était, qui nous semblait important est devenu dérisoire. Mmh. Ce qu'il s'est passé vendredi de la semaine dernière est un drame absolu et surtout pour des gens de ma génération. Mmh. Ce sont nos enfants qui ont tué d'autres de nos enfants. Et je pense que c'est ça qui me choque le plus. C'est-à-dire que je me demande, nous, depuis 30 ans, où on a fait l'erreur pour en arriver là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intégration ne marche pas, l'éducation ne marche pas. Et pourquoi avons-nous attendu un tel drame pour prendre finalement des mesures qui... il y a donc une trentaine d'années, aurait pu sans problème résoudre, peut-être pas complètement, la difficulté de certains d'entre nos jeunes qui ne se sentent pas forcément inclus dans notre société, notre façon de vivre, mais au moins aurait pu réduire ce genre de drame.
Alors sur votre site internet, vous faites 6 propositions contre le terrorisme, dont la première est la mobilisation des citoyens pour renforcer l'unité nationale. Vous dites comprendre l'interdiction de manifestation, mais pensez-vous que ce soit réellement justifié ?
Alors les 6 propositions que nous avons mises en débat sur le site internet ne sont pas forcément celles que nous retiendrons pendant cette campagne. C'est ce qu'on fait chez nos citoyens, c'est normal. On met à la discussion un certain nombre de propositions qui doivent être débattues, commentées par l'ensemble de nos concitoyens. Et ensuite, nous, entre guillemets, ceux qui veulent aller à l'élection, donc les plus politiques d'entre nous, en tirent des principes. Donc évidemment, unité nationale, ça va de soi. Chaque concitoyen a droit à être en sécurité. Simplement, l'aspect sécuritaire et l'aspect respect de la vie privée doivent être pris les deux ensemble et à part égale. C'est bien de faire en sorte que nos concitoyens n'aient pas peur, mais on est tous convaincus que ce n'est pas un portique qui va faire qu'un acte terroriste n'arrivera plus. Donc c'est bien en deçà de ces mesures qu'il faut agir. Et donc il faut agir, à mon sens, sur la jeunesse et peut-être même sur les enfants. Et je donne des exemples, par exemple, chez les Japonais, un petit Japonais des 3 ans, il sait exactement quoi faire en cas de séisme.
Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un apprentissage.
Donc je pense qu'il faudrait une sorte, et je pense que c'est aussi comme ça qu'on remet du lien social où il n'y en a plus. C'est-à-dire que si on apprenait cette sorte de protection civique, cette façon... que chaque enfant sache les premiers gestes qui sauvent et le pratique entre soi, ferait peut-être aussi un peu moins de violence dès l'école. Parce que le monde de l'école est un monde ultra violent. Enfin, il ne faut pas idéaliser. C'est déjà très violent, la société des enfants, même tout petits. Donc moi, je serais pour une éducation et une protection civique dès le plus jeune âge. Ensuite, il faut aussi qu'on ait conscience que le terrorisme... On peut lutter contre, mais on ne peut pas, c'est pas 100% de réussite. C'est quelque chose avec quoi il faut savoir vivre, et de tout temps, il y a eu ces menaces terroristes. Donc il faut aussi savoir prendre du recul, essayer de ne pas avoir peur, hein, et puis essayer de lutter correctement. Mais c'est aussi une question de politique internationale. Mmh. On ne peut pas résoudre non plus ce qui s'est passé ici sans voir les conséquences de nos actes à travers notre politique à l'ONU ou dans le concert des nations.
Une autre arme que vous évoquez dans ces 6 propositions, c'est le numérique. Quelle place est-ce que le numérique prend dans vos propositions ?
Même chose, numérique oui, smart city oui, mais pas Big Brother. Smart City, dans la mesure où nous pouvons avoir des preuves plus faciles pour remonter aux coupables et au réseau. Mais ce n'est pas non plus ça, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la paix sociale. En tout cas, moi, je ne veux pas qu'on me trace tout au long de ma vie, sous prétexte que peut-être il y aura une mesure terroriste. Donc comme juriste, je demande qu'il y ait un juge qui au moins a posteriori vérifie si mes droits ont été respectés.
Alors venons-en au scrutin du 6 et 13 décembre prochain, mais continuons à parler de numérique. Comment la région peut-elle aider, selon vous, les start-up à se développer ?
Alors d'abord, on ne décrète pas un emploi ou une entreprise, ça ne se fait pas comme ça. L'essentiel, c'est de créer un écosystème favorable à l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on va essayer, par des mesures assez concrètes, de faire en sorte de contrebalancer les mesures nationales qui empêchent les investisseurs étrangers et français d'investir en France et notamment dans la région capitale. Donc ça peut être des idées du style zone franche, mais ça peut aussi être tout ce qui est pépinière d'entreprise, hôtel d'entreprise, incubateur, couveuse, etc. Ça peut aussi être des aides et non pas des subventions, des aides remboursables, 1 euro public pour 1 euro privé, qui aident à faire le premier tour de table. Ce que normalement la famille ou les amis font dans le monde anglo-saxon, et qui est très difficile chez nous parce que finalement on n'a pas cette culture-là. Donc la région en développement économique peut jouer ce rôle-là. Ensuite, on voit quand même que les start-up en Île-de-France arrivent à naître. Leur problème, c'est grandir. Et c'est ça notre problème.
Et là, la région a un rôle ?
Alors, il y a forcément un rôle, parce que pourquoi nous arrivons à avoir des start-up ? Parce que nous avons depuis maintenant à peu près 6 ans, enfin à peu près une mandature, et ça a été la même chose à Paris. On a aidé les start-up à trouver un écosystème plutôt favorable. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à trouver comment faire quand les start-up sortent des couveuses, des pépinières, etc., et qu'elles se lancent dans la vraie vie de l'entreprise, et où elles arrivent à grandir. Donc c'est les seuils, etc., mais pour la région, c'est pas de nos compétences. Donc on peut pallier par la région à un certain nombre de lacunes françaises, mais nous ne pouvons pas avoir, par exemple, on peut aussi faire en sorte que les business angels aient un peu plus de moyens pour aider davantage et moins essaimer à droite à gauche et plus centraliser sur quelques projets. Il n'y a pas que l'entreprise innovante, toutes les entreprises sont innovantes. Donc il ne faut pas penser que juste ce qui semble être l'innovation aujourd'hui doit être aidé. Toute entreprise, toute démarche entrepreneuriale doit être aidée.
En parcourant un peu votre site internet, hein, si j'ai bien compris, le Grand Paris, vous êtes plutôt pour, mais pas dans sa forme actuelle. En quoi est-ce que le Grand Paris pourrait être une bonne ou une mauvaise chose pour la région Île-de-France ?
Pour moi, c'est un projet essentiel et c'est certainement le projet institutionnel du 21e siècle. Sauf que le Grand Paris, qui va entrer en,
en œuvre en janvier 2016.
En œuvre, alors non, même pas en œuvre, qui va commencer au 1er janvier 2016, mais qui sera évolutif sur 3 ans, voire jusqu'en 2020, n'est pas du tout le projet originel, selon la jurisprudence Christian Blanc, qui est très proche de la mienne, où le Grand Paris partait d'un constat très simple. La région capitale ne faisait pas n'avait pas la croissance d'une région capitale comme par exemple New York, Tokyo ou Singapour. Donc on s'est dit, la région n'a pas les outils, n'a pas les moyens et n'a pas la vision. Donc comment on fait? On a dit, on va faire le Grand Paris comme il y a le Grand Londres. Et donc cette vision-là, elle était entrepreneuriale, mais elle était aussi sociale. C'est-à-dire qu'on se disait, ce Grand Paris qui peut aller même jusqu'à la mer, ce qui est du reste normal pour une métropole, parce qu'une toute métropole a besoin d'avoir un port, toute métropole du 21e siècle a besoin d'avoir des aéroports, c'est le concept d'aérotropolis. Donc ce Grand Paris-là était un Grand Paris qui pouvait allier des infrastructures du 21e siècle, c'est le train qui va faire le tour du Grand Paris
Express.
Mais il n'était pas là pour faire le tour, il était là pour relier entre eux les 8 clusters. Donc en fait, finalement, c'était pour créer les outils, parce que le train n'est qu'un outil à la croissance. C'est plus du tout ça, on a oublié les clusters, il ne nous reste plus que le train, et même le train, quelquefois, on a l'impression que les capitaux dédiés vont plutôt être là pour rénover les RER qui n'ont pas été rénovés.
Alors quel avenir vous voyez dans les transports en commun?
Les transports en commun, déjà il faudrait une réforme du STIF, mais ça on le dit depuis des années.
Une réforme dans quel sens?
Il faut éviter qu'il y ait d'un côté la SNCF, de l'autre côté la RATP. Ensuite, ça coûte excessivement cher, par exemple à Paris, mais aussi aux usagers, si on peut le dire comme ça. Et finalement, le contrôle qu'on a dessus est assez limité. Ça aussi, c'est un de mes dadas. On peut financer, mais il faut qu'on contrôle. Et si le politique ne contrôle plus, ce n'est pas l'administratif qui va contrôler. Donc il faut que le politique reprenne le pouvoir sur l'administratif. Et pour en revenir au Grand Paris, je vous ai parlé de l'aspect entrepreneurial, mais il y a aussi l'aspect social. Et ça me fait repenser au début de notre conversation. C'est-à-dire que ce Grand Paris, il est ouvert. Et donc, il n'y a plus cette erreur historique qu'ont été finalement les 8 départements qui ont obligé à concentrer pauvreté, logements sociaux, échecs scolaires dans certains lieux. Finalement, le Grand Paris, il était fait pour ça. Il était fait pour une nouvelle citoyenneté et pour essayer de gommer ces ghettos. Et cet aspect-là n'est pas du tout dans la loi qui rentre en vigueur au début de l'année. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir reprendre.
Alors, on parle encore un peu de transport. Une autre de vos propositions, donc comme tous les candidats, vous dressez un bilan très sévère sur le réseau actuel. Votre solution, une de vos solutions à vous en tout cas, c'est de développer les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Mais est-ce que, en gardant un nombre important de véhicules sur les routes d'Île-de-France, ça ne va pas aider à désengorger les routes en fait? Vous me disiez tout à l'heure en plus en arrivant que vous étiez prise dans les embouteillages, c'est un problème que vous connaissez bien.
Mais je pense qu'il faut aussi se dire que toute métropole, quelle que soit la métropole, la ville-monde, où qu'elle soit, elle est de toute manière engorgée. Donc c'est pas spécifique à Paris.
Alors comment on désengorge? Comment on essaye de désengorger les routes?
On peut essayer, justement, la Smart City, c'est aussi une manière de désengorger les routes. Parce que si tout est bien géré, les feux, etc. Regardez par exemple les quais de Seine. Toutes les capitales se réapproprient les quais de leur fleuve. C'est plutôt un bon point. Je sais que quand j'étais conseiller de Paris, mon groupe politique était totalement hostile. Moi, je n'étais pas forcément hostile. J'aurais fait un peu différemment de ce que Bertrand Delanoë a fait. Mais je pense que c'est logique et c'est dans l'air du temps de se réapproprier les quais des fleuves. Bon. La voiture électrique, d'abord, elle ne pollue pas. Ensuite, elle est plus petite, elle est peut-être mieux, elle est plus à la dimension d'une ville, surtout des petites rues. Mais d'un autre côté, désengorger une ville, il ne faut pas non plus rendre tout piéton, parce qu'autrement, c'est l'économie qui en souffre. Donc, il faut toujours un juste milieu. Il ne faut pas supprimer la voiture coûte que coûte, et il ne faut pas non plus être un pro-bagnole absolu. Donc, tout ça est une gestion, mais il y a moyen de gérer plus ou moins bien sa ville. À Londres, on n'a pas de voiture, ou quasiment pas, parce qu'il y a des taxis, et il n'y a pas où les places de parking sont très chères. À New York, vous n'avez pas de voiture non plus, mais vous roulez aussi en taxi ou en vélo ou en ce que vous voulez, en patin roulette. Ou... Donc Paris peut se dire aussi, le cœur de Paris peut être piétonnisé avec des vélos, peut-être pas dans les deux sens, parce que ça, moi, ça me fait un petit peu peur de voir les vélos à contresens. Mais bon, s'il n'y a pas trop d'accidents, pourquoi pas.
On peut parler aussi peut-être des formations. Ce que vous proposez, là, c'est une formation obligatoire pour les chômeurs non qualifiés. C'est une mesure que vous financez comment ?
Non, alors, c'est pas pour les chômeurs non qualifiés. Moi, c'est pour plutôt... C'est une mesure qui vise surtout les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, généralement, ne sont même pas comptabilisés parce qu'ils ne se font pas connaître. Ils sont sortis de l'école sans diplôme et sans formation. Ils se sentent exclus et ils ne font même pas appel à certaines allocations qu'ils pourraient avoir. Donc moi, je pense que pour ramener les jeunes dans l'emploi, oui, dans une seconde chance, une école de la seconde chance, eh bien, il y a des moyens qui ne sont pas ces emplois aidés ou ces emplois jeunes, qui ça les marginalise et finalement ne les diplôme pas. Ils sont pas finalement c'est à contre, c'est presque une erreur de les mettre là-dedans. Moi je serais pour 18 mois de formation obligatoire en échange des allocations jeunes. Et la formation, ça peut, c'est l'école de la deuxième chance, mais c'est aussi peut-être, alors comme on est sur la région, il y a aussi un moyen, on a des territoires ruraux, et peut-être qu'il y a aussi par l'agriculture et une agriculture innovante, moyen de remettre les jeunes au travail par l'agriculture.
Et la formation obligatoire, justement, comment vous la financez ?
La formation obligatoire, elle coûtera moins cher que le chômage, hein, ensuite, à mon sens, ça peut aussi être pris en charge par la formation professionnelle, qui deviendrait quelque chose de professionnalisant, dans le bon sens du terme.
Alors parlons peut-être un peu de politique plus politicienne. Vous visez 4% de croissance d'ici à 2017, mais si on en croit les sondages, je ne suis pas sûr que vous arriviez vraiment à faire 4% au suffrage.
Ah non, c'est quoi, mon 4% de croissance, c'est au niveau économique.
Oui.
Je ne pense pas que ce soit nous, citoyens, qui aient 4% de croissance dans les années qui viennent. Là, je présume pas de
mais
notre...
Mais c'est vous, présidente de région, qui pourriez faire
non,
ça.
Moi, je pense que si on fait un grand pari entrepreneurial, si on arrive à attirer les capitaux privés, français comme étrangers, et à faire revenir les sièges sociaux des entreprises et à faire en sorte que l'écosystème soit propice à l'entreprise, eh bien, vous verrez qu'il y aura la croissance. 4%, c'est pas grand-chose. Enfin, ça semble énorme aujourd'hui quand on voit dans quel état on est, mais des villes comme Londres, alors, de manière un peu plus violente que nous, effectivement, l'atteignent pas facilement, mais l'atteignent.
Pour le premier tour, votre objectif en chiffres, c'est quoi ?
Alors, évidemment, pour le premier tour, ce serait d'être au second tour.
Donc 10%.
Donc 10%, pour avoir un groupe, nous citoyens, indépendants au conseil régional. Ça, c'est peut-être un peu un rêve inatteignable. Il n'empêche que nous sommes dans un tour de chauffe. On va dire que ces régionales-là, c'est un tour de chauffe. Entre 3 et 5 % je pense que ce serait un bon score. Ça serait encore mieux, mais il ne faut la situation est difficile et les conséquences du drame de vendredi 13 auront forcément un impact négatif sur l'élection. Ensuite, je pense que nous avons commencé la politique au municipal, et donc on n'était pas dans le rythme français, institutionnel français. Donc, notre objectif, c'est 2017. Un candidat à la présidentielle, un candidat partout dans chacune des circonscriptions aux législatives, et ensuite, c'est comme ça qu'on démarra. Aujourd'hui, on est à une période transitoire, c'est-à-dire que notre fondateur quittera nos citoyens à la fin du mois de janvier. Et donc, il y aura une nouvelle phase qui s'ouvrira pour nos citoyens. Et je suis donc candidate à la succession de Denis Paire.
Très rapidement, au second tour, est-ce que vous pensez que vous allez appeler à voter pour une liste ?
Je considère qu'un citoyen du 21e siècle n'a pas besoin d'avoir de consigne de vote. Il saura très bien pour qui voter.
Très bien. Merci beaucoup Valérie Sax d'avoir été notre invitée sur Radio Campus Paris. Je rappelle que vous êtes tête de liste Nous Citoyens en Ile-de-France dans le cadre des élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains.
Merci beaucoup.
Radio Campus Paris.